Bonjour, moi c'est Jessica.
Moi c'est Jessie.
Bienvenue dans Foodie le podcast.
Votre balade gourmande avec nos invités. Foodie le podcast, c'est la version audio de votre média 360 qui fait la promotion de la gastronomie et de ses acteurs. Des rendez-vous avec des restaurateurs, food lovers, agro-transformateurs, chefs, artisans, personnalités qui font vibrer la scène culinaire en Guadeloupe, dans la Caraïbe et l'Hexagone. Que font-ils? Que mangent-ils? Sont-ils plutôt piment végétarien ou bon dame en Jacques? Nous saurons tout. Aux commandes, Jessica Brudet, fondatrice de Foodie, et Jessie Schuster, journaliste et productrice. Toutes deux amatrices de bonne table, n'est-ce pas Jessica?
Amatrice fan tout bite.
Ah, c'est clair. Connaissez-vous cette expression? Je vous l'accorde, un peu cliché. Femme ou homme qui rit, à moitié dans ton lit, que j'ai personnellement transformé en femme ou homme bien nourri, à moitié dans ton lit, et si elle ou il rit en plus, tu ne seras jamais plus seule dans ton lit. Bon, bien sûr, il en faut plus pour une vraie relation, mais ça, c'est pour un autre podcast. En attendant, notre invité du jour a ce pouvoir du rire. Le rire qu'il transforme comme arme, un moyen de dénoncer, lancer des débats ou tout simplement une forme de décompression. Avec plus de 27 000 abonnés sur les réseaux, ce qui a débuté comme un passe-temps une après-midi où son cours de karaté a été annulé, est devenu aujourd'hui le cœur du Mamacho Corporation. Comédien, animateur radio, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Nous pourrions en rajouter d'ailleurs docteur ou thérapeute, vu que le rire est reconnu comme anti-stress, avec des vertus qui réduisent la tension artérielle et les douleurs, et peut même booster les performances sexuelles. Oui, oui. On welcome dans notre podcast Foodie, Marvin Cancel, a.k.a. le Mamad Show.
Salut, salut, j'espère que ça va, c'est carré. Oui, les choses se passent.
Ce qui est intéressant quand même sur Marvin, pour la petite anecdote, c'est que je l'ai rencontré, il avait 13-14 ans. Alors, pour la petite histoire, avant de faire Foodie, je me suis dit, ben tiens, et si j'étais professeur, donc j'ai travaillé dans un collège, et il se trouve qu'il était là.
C'est ça.
Donc il faisait pas encore ça hein, du tout, ce n'était pas le même.
Absolument pas.
Il était vraiment très différent. Très différent.
Vrai. Et
on était à Michelet, à Montapitre.
La pointe,
puissance.
Alors, attends, donc tu étais professeur.
Alors, en fait, à la base, je préparais le concours et donc j'étais assistante pédagogique. Donc, je devais donc garder les enfants quand il n'y avait pas cours et leur donner des leçons aussi. Donc, imagine un peu comme c'était compliqué.
Alors, attends, et tu te souviens de lui?
Je me souviens de lui.
Il fait en bitin.
Ben, après, c'est pas pour dire qu'il était emmerdant, mais. il fait partie des personnes que je reconnais dans la rue.
D'accord, mémorable, ben, c'est très bien. On va commencer cette interview pétillante avec une très belle anecdote, effectivement. Donc, en grandissant enfant, embêtant ou plutôt timide, sage?
À la base, j'étais timide, mais effectivement, j'étais, je pense, un peu plus bête que la moyenne parce que, c'est-à-dire que j'avais des amis qui eux, étaient très, très emmerdants. Et moi, je me laissais influencer.
Ah oui, c'est leur faute.
je me laissais beaucoup influencer, mais eux ils ont l'habitude, tu vois, ils ont la technique pour, mais pas moi. Du coup je me fais attraper et ça nous a permis de nouer une relation quand même assez sympathique, hein. Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors parlons donc du Mamad Show. Il est né en quelle année et d'où te vient cette aspiration?
Mamad Show, je crois que c'est 2017, effectivement. T'as dit un truc là, cours de karaté annulé. Je sais pas où t'as eu cette info, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Tu as des vrais, vrais espions quelque part. Ouais, c'est ça, 2017, après une annulation, cours de karaté, tout ça, je savais pas quoi faire. Donc j'ai pris mon téléphone. À l'époque, un vieux téléphone de fou. Je me rappelle même plus de la marque, mais genre, je me filme. C'est pas grave. Je crois que c'était un Wiko.
Wiko, oui.
Wiko à l'ancienne. Et pas un bon Wiko, un truc nul. Un truc nul, tu vois. Parce que j'aime beaucoup mon papa, mais à l'époque, il était très radin, donc il voulait pas me.
Ça s'est amélioré depuis ?
Oui, ça va mieux.
D'accord.
Et donc je commençais à faire une petite vidéo sur Snapchat à la base. Et ben, petit à petit. Tu vois, je fais la vidéo au fur et à mesure de la soirée et tout. Et genre, il y a quelqu'un qui me dit, ok, ben boum, ben, à la semaine prochaine. Je dis, semaine prochaine? Comment ça, semaine prochaine? Non, j'ai fait ça une fois et puis voilà, tu vois. Et bon, au final, j'ai refait. Et puis j'ai continué. Mais sérieusement, ça fait 2 ans que je suis dessus.
Mais est-ce que tu te rappelles du thème de cette première vidéo?
Je crois que c'était... Je crois que j'imitais les gars sur le bloc. Tu vois, les gars sur le bloc et tout, j'imitais un peu comment ils parlaient aux gens.
Justement, un peu
ouais. Dans cette... Vortex. Tout à fait, tout à fait.
Alors déjà, tu as grandi dans quelle commune en Guadeloupe?
Alors, moi j'ai fait Abim et Saint-François Petitbault.
Abim, donc t'es jamais
Et Poitapit, oui.
Ah, Poitapit, parce que tu as dit que t'étais à Michelet.
Oui, tout à fait, tout à fait. Poitapit et moi, c'est une longue histoire.
Ah, c'est beau, ça, c'est beau. Alors, donc aujourd'hui, tu as créé une entreprise, donc tu es auto-entrepreneur, qui s'appelle le Mamacho Corporation.
C'est ça.
Donc elle chapeaute tes différentes casquettes. Parle-nous justement de ces différentes casquettes.
Eh bien, comédien, du coup, créateur de contenu de vidéos sur Internet, animateur radio et animateur d'événements même aussi, tu vois. Et un peu tout ce qui touche aussi. Depuis peu, j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'envers du décor, tu vois, la production audiovisuelle. Production audiovisuelle, tout ce qui est... je me suis documenté sur du matériel et tout. J'ai déjà eu le temps de faire quelques réalisations pour quelques personnes et tout. Ça s'est plutôt bien passé. Et je pense qu'au fur et à mesure, c'est un domaine qui m'intéresse même plus qu'être devant la caméra, tu vois.
Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais pas que, il y a également la casquette d'étudiant, parce que comme tu le dis si bien, je ne fais pas que des blagues.
Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, ouais. Je suis étudiant en master sciences politiques à Fouilleul. Donc voilà, filière sciences pour représente.
Comment est-ce que tu gères justement cette double casquette, que j'allais dire double personnalité? Parce que du coup, les gens, ils attendent que tu blagues, les gens attendent que tu mettes l'ambiance quand tu es en cours, un peu?
Eh bien... pas vraiment, genre, c'est-à-dire que quand je suis en cours, tu vois. Je vais pas te dire que je suis pas totalement... je suis concentré en cours, oui, ça c'est sûr. Mais oui, de temps en temps, on parle, on se détend et tout, mais quand je suis en cours par contre.
Alors, la création de contenu, ça a toujours l'air tellement facile à faire. On voit une vidéo qui dure 30 secondes, on pense que vous l'avez fait en 30 secondes. Est-ce que tu peux nous parler un peu du revers du décor? Parce que de plus en plus de jeunes ou moins jeunes, en fait, voudraient faire du contenu et ils pensent qu'en 2 secondes, c'est fait.
Eh bien, si tu veux, comme tu l'as très très bien dit, effectivement, une vidéo de 30 secondes, ça ne prend pas 30 secondes. Ça ne prend pas 30 secondes. Déjà, moi, quand je crée... Je pense qu'il faut capter tout le temps où déjà tu penses à l'idée, tu travailles l'idée. Et puis 30 secondes, c'est 30 secondes que tu vois, mais il y a le montage derrière des fois, très très souvent. Donc une vidéo de 30 secondes, ça prend parfois 3-4 heures.
Exactement. Donc, et donc tu fais le montage toi-même également?
Ah oui, je fais tout seul. Je me filme tout seul au niveau du son, au niveau même des réglages, des couleurs de la vidéo, je fais tout seul. J'ai tout appris sur YouTube.
L'université de YouTube.
Ah oui, absolument.
Et qu'est-ce que tu utilises comme matériel aujourd'hui, sans rentrer dans les marques, mais en général c'est ton smartphone?
Mon téléphone.
Ton téléphone. T'as ton trépied?
Oui, téléphone, trépied.
Et au niveau lumière, t'as tout ça également?
Ouais, oui. Là j'ai acheté une lampe il n'y a pas si longtemps, mais avant c'était la lumière du soleil.
Ah, c'est clair.
On fait comme on peut.
Et aujourd'hui, tu as combien de personnages dans le Mamacho?
Oula.
À peu près.
Trois. Oula. Je crois, il y en a deux qui sont récurrents.
Lesquels ?
Il y a Tivortex et mon professeur, inspiré de beaucoup de profs, qui s'appelle Monsieur Malmaco. Donc voilà. Donc c'est les deux personnages que tu verras le plus souvent, mais sinon j'ai d'autres petits personnages que je t'apporte de temps en temps.
Que Jessica était ta professeure.
Non, elle était pas ma prof.
Est-ce qu'il y a eu un peu d'inspiration ou pas ? Non, mais non. Bon, ouais, d'accord. Tu étais une professeure gentille.
Moi, j'étais très gentille.
Donc, le professeur Tivortex, est-ce que tes inspirations te viennent également de ce que tu apprends dans tes études? Parce que tu as différents mondes, comme disait Jessica, mais est-ce que justement ils se nourrissent entre eux?
À fond, oui, j'essaie de faire des liens, maximum de liens. Moi, quand je fais de l'humour, c'est surtout sur l'actualité, tu vois. Donc, je fais des vidéos très, très dans l'instant et tout. Ce qui m'a valu quelques bad buzz, mais c'est pas grave, on est sur ça. Donc oui, les études me permettent justement d'avoir une vision un peu globale et de prendre certains sujets avec plus de recul. Par exemple, des fois, il y a des trucs qui se passent, j'ai pas forcément envie de les traiter parce que je sais que, tu vois, j'ai pas toute l'information, que je maîtrise pas tout, parce que faut avoir cette humilité de se dire qu'on n'est pas, tu vois, qu'on n'a pas toute la science, tu vois, donc voilà.
Tu as parlé de bad buzz, comment est-ce que tu gères ça justement? Comment ça se gère un bad buzz?
Comment ça se gère? Je désinstalle Twitter. C'est aussi simple que ça.
Le déni, c'est loin des yeux, loin du cœur. Mais c'est vrai, parce qu'on vit vraiment une époque où on est jugé pour parfois une seconde, une phrase, un mot qui est mal compris, qui est pris hors contexte. Donc, de la même manière dont on se crée des followers, mais c'est aussi de la même manière dont on en perd. Est-ce que c'est une pression pour toi ou pas?
Ouais, tu sais, à partir du moment où tu fais ça, tu te dis que ça peut arriver. Tu vois. Et puis, quand j'ai eu mon premier bad buzz, je me suis regardé devant le miroir, j'ai fait « Ah, c'est bon, je suis un artiste, c'est bon. »
C'est clair, effectivement. Tu as parlé, il y a une vidéo que j'aimais bien, je crois qu'elle a plusieurs mois, quelques années, c'est la vidéo par rapport à l'eau, où vous, toi et un ami, en train de vous baigner dans l'eau, là, en caleçon, et vous parlez du problème de l'eau, tout simplement. En 15 secondes, on comprend le problème de l'eau en Guadeloupe, en fait. Mm-hmm. Mais de manière humoristique, est-ce que tu as déjà eu, par exemple, des personnes qui ont été touchées, ben, on a commencé par le rire, mais qui ont réalisé, ah ben tiens, je savais pas que ça arrivait en Guadeloupe, ou le fait de pouvoir toucher une génération par le rire, est-ce que tu as eu des conséquences, des répercussions, même positives, de commentaires?
Alors, positif, oui, beaucoup de positif. En parlant de la vidéo de l'eau, très drôle. Parce que tu vois, c'est une vidéo qu'on a, on a filmé ça au niveau de la rivière. Hein.
Oui, j'ai reconnu. Ah ben voilà.
Donc, endroit, bien évidemment, où il n'y a pas beaucoup d'eau. Tu vois. Et d'ailleurs, il y a une légende qui dit que pour marier une fille du Gosier, il faut juste lui apporter un pack d'eau.
Moi, c'est bon la pointe, donc Jessica, il faut pas que tu me dises si c'est vrai ou pas. Ah, d'accord.
Et genre, il s'avère que genre 3 ou 4 jours après, moi, je suis là tranquillement et tout. On est près du... Parce que je suis souvent au Gosier, parce que Fouillon, on est près du BK et tout. Et je vois qu'il y a une voiture qui s'arrête. Je vois la vitre se baisse et je vois c'est le maire du Gosier. Qui m'interpelle et qui me dit « Je vois tes vidéos, hein. C'est bien. » J'ai fait « Yes, merci, il n'y a aucun souci, frérot. »
On va voir l'autre.
Et tu vois, c'est drôle parce que je pensais pas qu'un gars comme ça, tu vois, regarde des vidéos. Mais c'est super surprenant, c'est comme... des fois, quand je fais T-Vortex et tout, il y a des gars qui me disent « Ouais, t'as pas peur quand tu crois que c'est dans la rue ?» Eh ben non. Eh ben c'est eux qui aiment, c'est eux qui apprécient. Eh ben c'est gang et puis tout le monde a le droit de rigoler, tu vois. Ça reste des êtres humains. C'est pas parce qu'on n'est pas dans les mêmes sphères, tu vois, dans la société et tout. Chacun fait ses choix, ok. Mais on reste tous des êtres humains. On aime tous rien. Hein.
Alors justement, la question qu'on aime bien poser aux comédiens, est-ce qu'il y a toi des sujets sur lesquels tu refuses de rire? Est-ce que pour toi on peut rire de tout ou il y a certaines choses à, ouais, je touche pas à ça.
Alors, bon, moi, je suis un gars un peu problématique, je rigole de tout. Je rigole de tout. Mais je pense qu'on peut rire de tout, mais à partir du moment où c'est bien amené, bien écrit, si c'est drôle, tu vois. Parce que, voilà, le rire, ça sert aussi, c'est une façon de dédramatiser aussi, tu vois. Et je pense que les gens les plus drôles sont les gens les plus traumatisés, pour être totalement honnête. Parce que souvent, genre, si tu veux, il va arriver quelque chose à quelqu'un, et puis la personne même va dédramatiser, et puis c'est quelqu'un d'autre à côté, tu vois, qui sera là, non, faut pas rire, attention, non, ça savait pas. Alors que la personne, tu vois, la personne qui est concernée, même, elle dédramatise, tu vois. Donc, j'essaie de prendre ça de façon concrète et on fait les choses.
Est-ce que toi, justement, tu as eu des moments dans ta vie où ça n'a pas été, où tu t'es dit, bon, comment j'ai fait face à ça? Et que finalement, la comédie a été ta solution à toi?
Ah oui, bien sûr, absolument. Je pense que. J'ai commencé ça un peu par hasard, mais disons que ça... si tu veux, un moment, quand je suis rentré à l'université, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, tu vois. Et j'ai fait une première année d'éco, je n'ai pas aimé. Et après, j'ai fait une première année de droit, je n'ai pas aimé. Donc là, en 2 ans, j'ai eu 2 redoublements et c'était la première fois que ça m'arrivait, tu vois. Et genre, quand tu as une famille très sur l'école et tout, tu vois, d'un coup, tu passes du petit ultra prometteur au bon à rien, la base. Hein, parce que voilà, hein, mes parents, je les aime beaucoup, mais c'est des assassins. Parce qu'ils font des blagues de fou. Mais bon, voilà. Et genre, donc j'étais en échec scolaire, tu vois. Et c'est pendant cette période-là que j'ai commencé la comédie de façon un peu plus concrète. Et justement, ça m'a aidé à retrouver un sens et reprendre les études correctement, tu vois.
Est-ce que ça amène aussi une certaine confiance en soi?
Oui, à fond. Il y a ça et l'associatif aussi. La vie associative, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je pense vraiment, honnêtement, que si j'avais pas... Parce que j'ai intégré l'association des étudiants en droit, sciences politiques, économiques, qui s'appelle TEMIX, oui. L'association de l'UFR. Et j'ai intégré, puis j'ai été président, puis ensuite vice-président. Et je pense que si je n'avais pas eu cette vie associative et à côté une passion, je n'aurais pas continué mes études, ça c'est sûr.
Mais justement, cette vie associative, elle t'a amené quoi? En quoi c'est intéressant d'être dans une association?
Déjà, au niveau des compétences humaines, Parce qu'on ne va pas se mentir, à la fin du diplôme, on a tous le même diplôme, tu vois. Que tu aies eu 18 et moi 10, on a tous le même diplôme. Ce qui va faire la diff, c'est ce que tu as fait à côté. Et en fait, quand tu es dans l'associatif, tu gères des projets, tu rencontres du monde et tu dois aussi, parce que c'est très très important, surtout ici, cette notion d'humilité. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une idée et je la donne à l'asso, c'est plus mon idée, c'est l'idée de l'asso. Donc tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, hein, et c'est ça le truc. Donc cette notion-là, elle est super importante. Et puis au-delà de ça, c'est là que j'ai appris l'animation aussi. L'animation de plateau, l'animation d'événements. Et puis, ils m'ont un peu donné ma chance.
Alors, en parlant d'animation, donc on regarde ton compte Instagram, les vidéos sont entre 30 secondes, des fois ça peut monter à 1 minute 30. C'est très différent d'être sur scène. Et c'est souvent ce qui est assez rigolo à voir, qu'il y a des comiques qui disent, ou des comédiens qui disent, ben, moi je suis exclu de mes réseaux sociaux parce que moi je ne tiens pas sur une scène et surtout je ne peux pas regarder le public. Comment toi tu as fait la transition entre les vidéos et la scène?
Très bonne question. En fait, c'est surtout, j'ai fait une transition scène-vidéo parce que j'ai commencé par le théâtre à la base.
Ah, mais voilà, voilà la solution. Vas-y, alors dis-nous tout.
C'est donc pour ça, c'est-à-dire que j'ai commencé le théâtre. Et c'est après plusieurs années de théâtre que j'ai dit, vas-y.
Tu as fait ton théâtre où?
J'ai fait du théâtre à Bemao, au centre culturel Girard Loquel, avec Carole Raboteur. Et ensuite, j'ai travaillé avec BML, un autre comédien, et après, et là, ça fait un moment que je suis, ça va faire 3 ans que je travaille avec Julien Barlagne, qui est Albert, de Albert et Léon. C'est mon coach, big up le coach WhatsApp.
Et il est où, lui? Il est
Petit Beau.
Petit Beau, oui. D'accord.
Mais tu as fait du théâtre, pourquoi? Parce que tu aimais ça?
J'ai fait du théâtre surtout parce que je pense qu'au fond, ça faisait un moment que je voulais en faire. Et je me suis retrouvé dans ça un peu par hasard, c'est-à-dire que j'étais sur un casting de film, parce que échec scolaire, il fallait bien que je m'occupe un peu. Et donc j'étais sur un casting et j'ai rencontré un gars, BML justement. Et là, BML me dit, il arrive sur le plateau, il me dit, ouvrez-moi en son faiseur de star. On dit, beau gars, bon. J'y croyais absolument pas. Jusqu'à maintenant, je ne crois pas, mais Bilek. Il n'y a aucun souci, frérot. Mais sur le coup, il m'a dit ça, j'ai trouvé super drôle. Je lui ai dit, vas-y, on essaye. Et il m'a dit que oui, qu'il connaît une dame qui fait du théâtre. Donc il m'a présenté ma première prof de théâtre, Carole. Et c'est comme ça que c'est parti. Et au fur et à mesure et tout, j'ai intégré le comic Creole Show aussi, à CKS, géré par Bensley. Mm-hmm. Voilà. Au moins, Bentley est placé dans l'interview, comme ça, au moins, il va pas me tirer les oreilles.
Oui. Big up à Bensley. Non, mais c'est important parce que ce sont des personnes qui ont marqué ta carrière, qui ont marqué certaines étapes de ton choix professionnel pour le moment. Alors, tu as expliqué que tu faisais des études de Sciences Po, donc tu es comédien, tu as ces différentes casquettes. Est-ce que tu vois déjà ce que tu voudrais faire ou tu vis un peu au jour le jour? J'appelle ça maintenant le nouveau Covid attitude, parce qu'on n'arrive pas trop à prévoir un an après. Comment tu le vois, toi?
Ouais, c'est ça. Au jour le jour, je verrais bien où est-ce que tout ça nous mène, tu vois. Dans le sens où, je vais pas mentir, je pense qu'il faut pas se fermer aux opportunités. Tu vois. Dès que si tu as l'occasion de faire quelque chose, même si tu sais pas faire, dis que tu sais faire. Parce que tu vas apprendre. Et puis si, en tout cas, la vie m'a appris, il y a toujours quelqu'un de plus nul que toi. Donc, vas-y.
Effectivement, c'est très américain, ça. Fake it until you make it. Exactement. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des moments, quand tu as appris donc, dans la comédie, est-ce qu'il y a certaines choses clés qu'il faut avoir en tant que comédien? Est-ce que tu as donc appris comment te placer sur scène? Donne-nous quelques petites techniques que tu as apprises.
Je pense que en vrai, ce que le comédien doit cultiver en premier, c'est sa générosité. C'est-à-dire, on joue pas pour nous, on joue pour le public. C'est-à-dire, à la fin, tu vois, si je sors de scène et que je suis pas essoufflé, pour moi, c'est pas normal. C'est-à-dire, je dois me donner à fond. Obligatoirement, c'est 15 minutes où tu te donnes à fond. Il y a aussi d'autres endroits.
Attends, tu sautes, tu danses sur scène aussi, tu fais tout ça, tu fais pour être essoufflé, au café qu'on sort.
Non, tu rentres et tu envoies l'énergie, c'est-à-dire tu joues pour le public avant tout. Tu joues pour le public avant tout, t'es pas là juste pour te faire voir, oh waouh, je suis comédien, non.
Et comment le public te le donne? Comment est le public guadeloupéen? Parce qu'il est connu comme étant un peu froid par rapport aux autres îles et le monde entier. Mais bon. Non, mais il faut le dire.
On a notre public et c'est très très bien en fait. Je pense que c'est une super formation d'être de partir en fait de d'être comédien en Guadeloupe. Parce que quand t'es nul, le public, il te le dit tout de suite. Et c'est ça qui est incroyable. Et on a sûrement un des publics les plus difficiles. Ça, c'est réel, vous pouvez m'en dire. Mais on a aussi un public, quand il te le donne bien. Et ça, c'est chez nous, c'est tout ou rien, tu vois. C'est la mentalité et tout. Et après, oui,
alors, dernière petite question de notre interview pétillante. Quelle a été la réaction de ta famille, de tes amis proches, quand ils ont dit bon, au café vidéo, c'est quoi? Est-ce que ça a été plus on t'encourage ou mais au café blague, ça pas en métier? Qu'est-ce que ça a été pour toi?
Enfin, maintenant, ça va. Mm-hmm. Non, ça va, hein, tu connais. Hein,
après 27 000 followers, ça va mieux.
C'est sûr. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais au début, tu vois, ils ne comprennent pas forcément.
Bien sûr.
Parce que, disons que ce que je fais à côté de mes études, parce que j'arrive à quand même dégager un peu de revenus par rapport à ça, tu vois. Je ne travaille pas à côté, je fais que ça. Et j'arrive quand même à dégager des revenus et tout. Je ne mange pas que pâté, steak, billette, tu vois. On est super.
Tu mets du ketchup avec aussi.
Ah, mais oui. Ketchup et fromage, madame.
Aïe, aïe, aïe. C'est bon.
Donc voilà, et maintenant ça va mieux, mais au début, effectivement, c'était un peu compliqué. Au début, c'était un peu compliqué, mais je comprends. C'est au départ, quand t'es jeune et tout, tu comprends pas pourquoi tes parents forcément veulent pas. Mais plus tu grandis, plus tu captes qu'ils ont peut-être un peu peur pour toi des fois, tu vois. Ils ont peut-être un peu peur pour toi parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas. Et puis, on va pas se mentir, c'est tes parents, mais ils te connaissent pas plus que toi, tu te connais. Alors, toi, tu sais que tu vas faire ça et que tu vas le faire à fond, mais eux... Faut pas forcément leur en vouloir parce que c'est pas la même génération. Genre, la majeure partie des choses que je fais, je l'explique, par exemple, des fois à ma grand-mère, elle comprend pas trop, tu vois. Elle comprend pas trop. Elle comprend quand même me voir à la télé. Oui, mais
elle comprend, sûr. La télé, oui, c'est sûr.
Mais sinon, quand je lui dis, je fais une story, je suis payé pour ça, waouh.
C'est clair. En parlant de parents et de grands-parents, est-ce qu'au niveau culinaire, il y a des. Est-ce que tu fais à manger, toi?
À fond, oui, ma maman a un restaurant.
Oh, et c'est quoi le nom du restaurant?
Ça s'appelle Le Patio Rouge. Le Patio Rouge, oui. En ce moment, c'est en travaux, mais ma maman reste.
Dans quelle commune?
Pointe-à-Pitre.
Pointe-à-Pitre. Et donc, tu as grandi dedans?
Ouais, à fond.
Et donc, qu'est-ce que tu sais faire à manger?
Oui.
Oui, mais qu'est-ce que tu sais faire?
Ah, qu'est-ce que je sais
faire? Je veux des exemples.
Je suis un expert en pâtes. Mm-hmm. C'est-à-dire, le plat que j'aime faire le plus, c'est pâte aux fruits de mer.
D'accord.
Et puis, par rapport à ça, ouais, c'est ça. C'est ce que je fais le plus, mais je ne serai jamais un cuisinier comme ma maman.
Non.
Donc au moins comme ma mamie, big up mamie, what's up. Et les choses se passent.
Mm-hmm. Bon, très bien. On va explorer tout cela tout de suite avec la prochaine rubrique, les moments croustillants. On y va.
Donc on passe aux moments croustillants. D'accord. Les moments, tu dois nous parler de trois moments de vie que tu as déjà eu jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Qui t'ont marqué. Ça peut être un moment heureux comme un moment malheureux, mais qui sont ancrés dans ta tête.
Personnel ou professionnel? Ok, un moment croustillant. Wow.
Trois moments
croustillants. Ah oui, quand même. Ok. je dirais que le premier, c'est peut-être mon premier cours de théâtre. Le premier, c'est peut-être mon premier cours de théâtre dans le sens où, quand je suis arrivé, j'ai fait « Ah !» Genre, je fais tout ça dans les sur-terre sans faire ça, genre. Et avant ça, justement, je n'étais pas vraiment motivé pour faire les choses. Et là, sachant que le compte était à Bémao, moi, j'habitais à Petit-Bourg, ça veut dire que tous les samedis, je devais prendre le bus. Et avant, moi, je bus, tu connais, je ne connais pas. Hein. Parce que je me suis dit, bon, voilà, s'il n'y a pas quelqu'un pour me déposer, je ne vais pas, tu vois. Mais ça m'a appris. Ça a un peu été une façon différente d'apprendre la vie, même, genre. Parce que voilà, la détermination et tout. Même moi, je me suis opposé des fois. Je me réveillais, j'avais mal à la tête. Je ne suis pas un gars du matin, moi. Pour moi, midi. Même midi.
Mais midi, c'est le matin.
C'est chaud, tu vois. Mais ouais, je vis plus la nuit. Donc ça m'a... Je pense que ouais, mon premier cours de théâtre.
Ok, le deuxième.
En deuxième, je dirais le confinement. Le confinement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais arrivé à un moment où je faisais des vidéos et tout, et je ne comprenais pas peut-être pourquoi ça ne décollait pas comme je le voulais. Et ensuite, j'ai commencé à me plonger dans beaucoup de livres parce qu'on avait beaucoup de temps. Je me suis plongé dans beaucoup de livres, j'ai beaucoup étudié le business et tout, parce que dans la comédie, l'entertainment, tout ça, le côté marketing et business m'intéresse presque plus que le côté, tu vois, jouer, acting, tout ça. Et genre, j'ai compris que, bon, que pendant le confinement, on devait faire des choses concrètes et tout. Et donc, j'ai dit, bon, vas-y, j'ai commencé à faire une vidéo par jour pendant les 2 mois, tu vois. Ouais, donc à la fin, j'ai fait 55 vidéos sur le confinement. Et c'est là que j'ai explosé. Genre, je suis passé de 4000 followers, je crois, à 10 000 en 2 mois. Et ouais, donc en 55 vidéos, je faisais une vidéo par jour, tous les jours. Et je faisais 2-3 lives Instagram par semaine. À ce moment-là, j'ai commencé TikTok aussi. J'ai pris 10 000 abonnés sur TikTok en 2 mois. Et on a continué à faire les choses et tout. Et ensuite...
Troisième moment. Ça peut être personnel aussi. Hein.
Je t'aurais dit mon premier limbé.
Ah. mais c'était quoi la chanson qui accompagnait ton limbé? Ça y est, on veut tout savoir.
Je sais que c'était du Medicus.
Aïe, aïe, aïe. Mais non, t'inquiète pas. On est tous passés par là. On fait juste semblant. Oui. On fait juste semblant. Même ceux qui vont te dire, ouais, Boula pour un limbé, ils sont tous passés par là. Combien de temps ça a duré ton limbé? Parce qu'en général, les hommes, ça dure plus longtemps que les femmes. Et comme moi, qui peut pas parler encore?
Ah non, c'est parce que je repense à moi, j'étais dans mon lit, c'était nul.
Combien de temps ça a duré?
Je crois que ça a duré 1 an et demi.
Ah ouais! Excuse-moi, je me moque pas de toi. Ah oui, ouais. Est-ce que vous vous reparlez ou pas depuis?
Maintenant oui. Genre,
elle sait que tu restes 1 an et demi en limbé?
Ah non, elle sait pas.
Bon, maintenant elle le sait, on va pas donner son nom, on peut donner la première lettre du prénom ou pas?
Oui, c'est... M, je crois.
M, je crois. D'après, je crois. Ça a fait un an et demi qui a passé, mais je crois.
Ouais,
bon, d'accord. Mais je peux comprendre que ce soit mon oncle.
T'es 14 ans.
Ah, mais c'est oui. Le plus dur. Hein. Le premier limbé.
Elle était à Michelet aussi. Hein.
Moune Michelet. Moune Michelet. Jessica va faire des...
Moune Michelet. Je reprends la liste de classe.
Ah, mais c'est dur, les premiers limbés. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu mangeais pendant ton limbé qui te donnait un petit peu de baume au cœur? J'ai quand même foutu le podcast. Combien de kilos tu as perdu? Ah, bon Dieu. Meilleur régime sur la Terre.
Mais oui, c'est sûr.
Quand je repense au limbé, c'était vraiment nul. Tu vois, je mangeais les mélanges apéro avec les raisins, les noix de cajou, les cacahuètes. Parce que le pâté achetait ça de ouf. Et genre, il n'y a que ça que je mangeais. Oh, bon, pendant longtemps, j'ai mangé ça.
Est-ce que tu peux encore manger aujourd'hui quand tu prends le paquet?
Non, je ne peux plus.
C'est fou ce que l'imbé peut faire. Hein. Ça peut ruiner toute une industrie de cacahuètes. C'est incroyable. Eh bien, mademoiselle M, voilà ce qui s'est passé. Comme quoi, on pense que les hommes n'ont pas de cœur. Eh bien non, voilà, c'est un gros stéréotype. Les hommes ont du cœur et parfois des limbés. Merci beaucoup pour avoir partagé ces 3 moments croustillants. Nous passons tout de suite à la prochaine rubrique, le didico. Alors le didico, c'est tout simple. C'est un souvenir d'enfance culinaire. Okay. Ça peut être une saveur, une odeur, quelque chose. Quand tu y repenses, c'est comme si tu avais de nouveau 4, 5, 6 ans. Qu'est-ce que c'est pour toi?
En plus, avec une maman qui...
Et une grand-mère? C'est ça. J'ai envie d'aller vivre chez lui.
Alors, penser à un souvenir d'enfance, je pense que... Le truc qui m'a le plus marqué, tu vois, parce que j'ai pas. Je suis arrivé ici, j'avais 6 ans. Avant ça, j'étais sur Paname. Et je pense que c'est la première fois que j'ai mangé du fouillis à pain. C'était incroyable. Oui, parce qu'au début, j'aimais pas trop, mais au fur et à mesure, j'ai aimé. Mais la première fois, ça m'a traumatisé. J'ai dit, c'est quoi ça? Quel est ce gros féculent? Je sais pas c'est quoi ça même. Et on m'a dit, ça se mange avec du poisson. J'ai dit, mais le poisson, moi, je voyais que du poisson frit. Et là, on me donne une espèce de poisson chic taille. Je me dis, mais. Quel est ce plat? Et puis au final, c'est devenu mon plat préféré. Hein, ouais, ça va. Hein. Bâtin de fouille à pain et chic taille de mou. On est sur ça. Boum.
Mais c'est vrai qu'on ne réalise pas, mais quand tu sors de Paris, tu arrives ici, on te donne une chic taille de mou et un fruit à pain, tu n'as mangé aucun des deux en fait. Parce que pour un poisson pané, c'est un poisson pané.
C'est ça.
Oh, c'est bien. Merci d'avoir partagé ce moment. Très, très, ouais, très émouvant. Effectivement, on passe à la prochaine rubrique. Jessica, on part en voyage?
C'est la rubrique voyage. Mm-hmm. Voyage, au cours de tes déplacements, tu as eu à aller ici ou ailleurs. Hein. Est-ce qu'il y a une saveur que tu as pu découvrir qui t'a vraiment fait frétiller? Tu t'es dit waouh!
Il y en a deux. Ah. Alors, il y en a même 3. pour être totalement honnête. Alors, la première, c'est la vérité, que j'ai un pote qui est haïtien, et un jour, qui m'a parlé d'un fameux riz noir. Je dis, quel riz noir, de quoi tu me parles? Et puis, Missy m'a fait goûter du riz djonjon. Et ce jour-là, honnêtement, hein, j'ai failli tomber amoureux de ce négro parce que c'était trop bon. Et quand j'ai découvert le riz djonjon, je dis, comment j'ai pu passer tout ce temps sans manger ça? Et donc, le riz djonjon, incroyable, saveur incroyable, vraiment, peu importe avec quoi, même sans rien, je peux manger ça tous les jours de la semaine. C'est réel. Le riz djonjon, c'est waouh, c'est une histoire d'amour. Et sinon, deuxième fois, c'est je suis parti en Martinique. Avec votre podcasteur qui est juste à côté là. Et on a bu un rhum, famille. Aïe, 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 gang. On a bu du rhum. C'était génial. Incroyable, saveur incroyable. Discussion incroyable dans la chambre. On était avec Balou, French Balou, et parce qu'on est allé suivre une formation et tout. C'était génial. Super formation. Depuis la formation, il est devenu encore plus beau. Prends soin de sa barbe et tout.
C'était du rhum blanc.
Ou du vieux. On a bu les deux. Et c'était gang. Et après, mais je tiens à dire que le rhum d'ici est quand même meilleur. Mais c'est important de le placer.
Très bien. À consommer, bien sûr, avec modération.
Bien sûr.
Et la troisième?
Troisième, c'est quand j'ai réalisé que, tu vois, j'étais parti avec l'association des étudiants. On était parti rencontrer des étudiants là-bas.
Et là-bas.
On était à Metz. Metz. On a fait Metz et on a fait Nancy. Et donc le Grand Est. Et donc c'est ce jour-là, j'ai compris que les gens là-bas n'assaisonnaient pas leur viande. Ça m'a fait vraiment mal. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné une espèce de poisson, j'ai mangé, j'ai pleuré, parce que c'était pas bon. C'était vraiment des larmes de tristesse. Si j'ai une semaine à faire là, ça va être compliqué. Donc c'est là que j'ai compris que je ne pourrais pas vivre dans ce pays, parce que me donner du poulet pas assaisonné, des chips, ce n'est pas un repas. Voilà, merci beaucoup.
Parfait, merci beaucoup. On passe donc à notre prochaine rubrique. Alors, c'est la rubrique chapeau surprise. Donc, devant toi, Okay. Tu as un bol avec des questions. Tu dois pouvoir répondre au maximum de questions en 2 minutes.
Ok.
Sachant que le record est détenu par Jessica Campbell et que Chris est pas loin derrière.
Ok.
Donc, vas-tu pouvoir faire mieux?
Je ne sais pas. Mais...
Attention. C'est parti.
Ok, l'ingrédient qui me fait le plus peur à cuisiner, la morue. L'odeur de quelle épice me replonge de mon enfance? Cumin, cassave sucré ou salé? Salé. Nem ou samoussa? Nem. Cuisiner ou déguster? Je suis un bon mangeur, je déguste. Team merguez ou chipolata? Merguez. Grillade ou agou? Grillade. Hop là, langouste ou lambi? Lambi, la boisson que je bois pendant un événement sportif que je regarde. Du rhum. pendant que je fais les courses, est-ce que j'utilise une liste papier ou digital? Gâteau fruité ou gâteau beurre? Forêt noire ou Mont Blanc? Forêt noire. Couscous avec ou sans raisin? Avec raisin, madame. Ah. Bébélé ou Colombo? Hop là, j'ai pris ça à l'envers.
Une minute et 10 secondes.
Bonbon créma ou bonbon menthe à la caisse au resto? Bonbon menthe. Boire en mangeant ou manger puis boire? Boire en mangeant, on fait les deux. Le meilleur service au resto commence par c'est à moins 50%. Qui t'a offert ton premier livre de cuisine? Je crois que c'est ma maman. Sucré ou salé? Je suis plus salé. Ton jus local préféré? Gingembre. Serviette en papier ou en tissu? Papier. Entrée, plat, dessert, les trois. Avec qui partagerais-tu un dîner cette course? Avec Guiric, tiens. La discussion est évitée pendant un bon dîner. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sieste après un bon repas du dimanche ou excursion? Sieste. Boudin blanc, boudin rouge, boudin blanc.
15 secondes.
Tim, je garde les bonnes adresses secrètes, je partage à fond. Doux, pimenté. Hein? Compostage, recyclage.
Et...
Pareil.
Bien, voilà. Merci beaucoup. Alors, wow. J'ai une question par rapport à ça. On va compter. Pendant que Jessica compte, tu as donc dit que tu as grandi donc, avec ta maman qui avait ce restaurant en Pointe-à-Pitre. Est-ce que tu aidais en cuisine aussi ou pas?
Oui, j'aidais un peu en cuisine. j'ai aidé un peu cuisine rapidement, tu vois. C'était vraiment rapide. Puis ouais, après, je l'aidais plus au niveau du service et tout, parce que j'aimais plus être au contact des gens, tu vois.
Très bien.
Au contact des gens. Après, je l'ai aidé au niveau du bar. Et ben, à 15-16 ans, j'étais déjà barman. Je pouvais pas goûter de l'alcool, mais je faisais des cocktails pour les gens.
En plus, savoir tenir un restaurant, c'est un dur métier. Donc, ouais, tu as vu ta mère, et je pense que c'est aussi un exemple de travail acharné.
Bien sûr, à fond, oui. Ma mère, c'est quelqu'un qui travaille qui m'a toujours montré qu'on pouvait justement changer de voie constamment. Tu vois. Parce qu'à la base, elle n'était pas dans la restauration. Elle a toujours aimé ça. Elle avait un métier avant. Puis après, elle a dit, bon, elle va se lancer dans la restauration parce que c'est ce qu'elle aime vraiment, tu vois.
Très bien. Alors, combien de questions il a fait ?
29.
29, non. Record, pas encore. Il avait compris la technique. Hein. Il a pris plusieurs questions à la fin, mais c'était vers la fin qu'il avait compris. Donc, c'est compliqué. Malheureusement, l'interview touche déjà à sa fin.
Oui, c'est fini.
Mais c'est nous avons la dernière petite rubrique. Donc, elle s'appelle la phrase « T'es gourmand ». Donc, c'est la phrase de conclusion. Donc, tu vas répéter après nous, en complétant, bien sûr, avec ta propre réponse. Pour moi, donc, si tu préfères dire... Donc, tu dis tout simplement. Donc, pour moi, Marvin Cancel, ou si tu préfères pour moi, Mamacho, un bon moment culinaire, c'est. Et je te laisse compléter.
Ok. C'est parti. Ok, donc pour moi, Mamad, un bon moment culinaire, c'est un moment où on mange beaucoup. Eh bien, yes, oui, on est sur ça. Oui.
Mm-hmm. Parfait. Merci encore.
Merci à vous.
Bonne chance pour les examens.
Jessica, il n'y a pas de souci. Big up à Guérica, la régie. Yes. Les choses se passent.
Foodzy. Et on te retrouve où sur Instagram ?
Alors, Instagram, le Mamad Show. Voilà, vous tapez le Mamad Show et vous trouverez du contenu divertissant et ludique. Et sur TikTok aussi, le Mamad Show. YouTube également. Partout, le Mamad Show.
Perfect. Merci beaucoup.
Merci pour ce moment.
Yes.
Merci à vous d'avoir suivi Foodil le podcast. N'oubliez pas de liker, partager et laisser vos commentaires.